Radio Prague, les informations.
Les leaders de la coalition ont signé l'additif à l'accord de coalition d'émission du ministre des Transports. Petra Kvitova en finale du tournoi de Wimbledon. Les leaders de la coalition gouvernementale tchèque ont signé ce jeudi l'additif à l'accord de coalition réclamé par le parti Affaires publiques. La signature de l'additif était présentée par Affaires publiques comme la condition de sa participation au cabinet Petr Nečas. Composée de trois partis, la coalition gouvernementale de centre droit va rester dans sa configuration actuelle. La vice-présidente du parti, Karolina Pík, devient vice-premier ministre adjoint et présidente du conseil législatif du gouvernement. Affaires publiques aura dans le cabinet quatre représentants. Le ministre des Transports, Radek Šmerda, quittera ses fonctions ce vendredi. La décision a été prise en accord avec le premier ministre Petr Nečas et fait suite à l'annonce de la signature de l'additif à l'accord de coalition par les trois partis composant le gouvernement. Le parti Affaires publiques avait fait du départ du ministre des Transports une des conditions à son maintien au sein de la coalition. Parmi les candidats probables au poste vacant, il y a le manager Pavel Dobesch, collaborateur de l'ancien ministre des Transports Vít Bárta, considéré comme le leader non officiel du parti Affaires publiques. La République tchèque fermera temporairement le département de visa de son consulat général à Donetsk, en Ukraine. Selon les sources diplomatiques tchèques, cette mesure est nécessaire parce que les autorités ukrainiennes empêchent le consulat de travailler. Selon le ministre tchèque de la Justice, Jiří Pospíšil, 8 juges du tribunal régional de la ville de Děčín en Bohême du Nord ont donné leurs autorisations à des écoutes téléphoniques douteuses. Le ministre estime que les juges n'ont pas donné des arguments suffisants pour prouver la nécessité de ces écoutes. Le ministère portera plainte contre ces juges. L'un des projets de coopération militaire entre la République tchèque et les États-Unis seront les exercices de pilotes étrangers sur le territoire tchèque. Selon les sources diplomatiques tchèques, les pilotes pourraient venir des États-Unis mais aussi d'Afghanistan. Le ministre tchèque de la Défense, Alexander Vondra, constate que Tchèques et Américains, après avoir abandonné leur projet de bouclier antimissile commun, cherchent de nouvelles possibilités pour engager la République tchèque dans la coopération militaire. D'après le ministre, les exercices des pilotes ne doivent pas remplacer cependant la participation tchèque au bouclier antimissile. Petra Kvitova s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Wimbledon jeudi après-midi en battant la Biélorusse Victoria Azarenka en 3-7, 6-1, 3-6, 6-2. Tête de série numéro 8 et âgée de 21 ans, la Tchèque participera samedi sur le gazon londonien à la première finale d'un tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Elle sera opposée à la Russe Maria Sharapova. Météo. Ce jeudi, jour de la fête des Charkas, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est nuagé à couvert, il pleut par endroits, les précipitations sont abondantes, notamment en Moravie du Nord, où la pluie fait monter le niveau des rivières. Les températures varient entre 22 et 26 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter, qui passe le micro à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Václav Richter pour ce bulletin d'information. À partir de janvier prochain, une nouvelle carte de paiement sera mise en place, destinée aux personnes qui touchent le revenu minimum. Cette nouvelle carte pourrait les contraindre à ne plus effectuer de paiement sous forme de monnaie. Une mesure qui ne plaît pas à tout le monde. Le chœur d'enfants tchèques de renommée internationale Bambini di Praga a annoncé la fin de ses activités. Une décision qui fait suite à la sortie de prison de son ancien chef, condamné en 2009 pour abus sexuels sur des jeunes filles du chœur. Et puis, comme une semaine sur deux, on partira en vadrouille avec notre rubrique touristique. Bonne écoute de ce programme. À partir de janvier prochain, une nouvelle carte de paiement destinée aux personnes assujetties au revenu minimum pourrait contraindre celle-ci à ne plus effectuer de paiement en numéraire. Le projet étudié par le ministère du Travail et des Affaires sociales et dévoilé par le journal Hospodarské noviny vise à empêcher les bénéficiaires d'allocations sociales d'acheter de l'alcool ou des cigarettes dans les supermarchés et à les détourner des bars. De nombreuses voix s'élèvent déjà pour critiquer le caractère stigmatisant de cette mesure, tout autant que son infaisabilité. Pierre Maignan.
La situation précaire des bénéficiaires d'allocations sociales était récemment pointée du doigt par une ONG, le Comité tchèque d'Helsinki. Elle risque de ne pas s'améliorer avec ce nouveau projet qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de réformer le système d'aide sociale. À partir de janvier prochain, les bénéficiaires du revenu minimum devraient ne plus recevoir cet argent en liquide, mais directement sur une nouvelle carte de paiement spécialement créée. Vice-ministre du Travail et des Affaires sociales, Vladimir Chichka est l'un des initiateurs du projet. Il donne quelques précisions sur les modalités de fonctionnement de la carte et sur son utilisation.
Cette carte a plusieurs fonctions. Avant tout, elle dispose d'une fonction d'identification, d'une fonction d'autorisation et enfin d'une fonction de paiement. Tous les bénéficiaires du système d'aide sociale obtiendront cette carte, même si la première étape concerne en priorité les bénéficiaires du revenu minimum. Ils l'utiliseront pour communiquer avec l'administration quant à leur projet. Ces bénéficiaires pourront utiliser la fonction de paiement limitée de la carte, mais dans le cas où leurs droits sont liés à une aide financière, ils devront l'utiliser.
Quelques dizaines de milliers de personnes reçoivent le revenu minimum et se verront donc remettre cette carte bancaire en priorité. Par la suite, elle pourra être également délivrée à tout individu qui en fera la demande. C'est pourquoi le ministère prévoit l'édition de 800 000 cartes de crédit de ce type. La dite carte ne fonctionnera pas dans les débits de boissons et détectera la présence ou non de cigarettes ou d'alcool lors d'achats dans les supermarchés, autorisant ou non ainsi le paiement en conséquence. De plus, il sera impossible d'utiliser un distributeur automatique pour retirer de l'argent. L'opposition et certains organismes ont dès à présent exprimé leur désapprobation face à ce projet. Ils évoquent par exemple le cas d'un individu concerné par cette carte qui vivrait dans l'un des nombreux villages où ni les bars ni les épiceries ne possèdent de système de paiement par carte. Une critique à laquelle le vice-ministre du Travail et des Affaires sociales répond simplement que ces cas sont très rares, ajoutant que les dispositifs de paiement par carte se généralisent. Directeur du programme pour l'intégration sociale de l'ONG Człowiek w Stisni, l'homme en détresse, Jan Czerny, considère que cette proposition est pleine de contradictions. Selon lui, outre le fait qu'elle déresponsabilise totalement les personnes concernées par cette carte, il s'agirait avant tout d'une affaire de gros sous. Les modalités de participation au projet d'une ou de plusieurs banques ne sont en effet pas claires, et c'est précisément ce point qui inquiète Jan Czerny.
La façon dont va se mettre en place ce produit n'est pas vraiment claire. Il m'apparaît qu'il est nécessaire de regarder cette mesure d'un point de vue commercial. Le ministère ne cache pas qu'il vise la plus grande partie du pactole que constituent les prestations d'assurance sociale. Cela signifie donc qu'il s'en prend aux non-conformistes ou à ceux qui, soi-disant, abusent de ses droits. Je connais vraiment très peu de gens qui abusent ainsi dans le sens où on l'entend.
La banque qui obtiendra ce nouveau marché devra faire un investissement de départ assez lourd, mais qui pourrait s'avérer rémunérateur sur le long terme, puisqu'elle récupérera environ 1% sur chaque transaction. Václav Krasa, le président du Conseil national des personnes handicapées, craint que cette mesure, envisagée également en Grande-Bretagne, en Slovaquie et en Italie, ne soit source de nouveaux conflits d'intérêts au sommet de l'État. Il ajoute qu'il s'agit d'une nouvelle stigmatisation des personnes les plus démunies. Certains, enfin, s'inquiètent de la constitution d'un fichier regroupant toutes les personnes les plus fragiles du système.
La chorale d'enfants Bambini di Praga a été dissoute mardi dans la grande salle de la bibliothèque municipale de Prague. Le public a applaudi debout le dernier concert de la chorale qui a occupé pendant 38 ans une place importante sur la scène musicale tchèque. La disparition de la chorale est la conséquence d'une vaste affaire d'abus sexuels qui a éclaboussé l'ancien chef de l'ensemble. On retrouve tout de suite à nouveau Václav Richter pour plus de détails.
Selon son attaché de presse Yana Puterova, la détérioration de sa situation dans la société ne permet plus à la chorale de poursuivre son travail.
La chorale Bambini di Praga met fin à l'ensemble de ses activités. L'école de chant choral a été fermée il y a déjà des années. En ce moment donc, la chorale Bambini di Praga, elle aussi, en tant que marque, en tant que société, met fin à tout ce qui la concerne.
L'histoire de l'ensemble remonte aux années de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le jeune maître de chœur de la ville d'Ostrava, Bohumil Kulinski, obtient avec sa chorale d'enfants un prix national qui lui vaut une invitation à la radio à Prague. Après la libération en 1945, Bohumil Kulinski est nommé chef de la nouvelle chorale d'enfants, de la radiodiffusion tchécoslovaque. Et c'est encore lui qui, en 1973, se trouve à la tête de l'ensemble lorsque celui-ci quitte la radio pour former la chorale Bambini di Praga. L'ensemble s'impose sur la scène musicale tchèque et grâce à de nombreuses tournées à l'étranger, sa renommée devient bientôt internationale. La chorale est dirigée d'abord par Bohumil Kulinski, puis par sa femme Blanka Kulinska et leur fils Bohumil Kulinski, un maître de chœur et chef d'orchestre de talent. C'est lui qui apportera à la chorale une nouvelle énergie et sera l'artisan de ses nouveaux succès. Mais c'est lui aussi qui sera à l'origine d'un scandale qui amènera l'ensemble à sa perte. En 2005, Bohumil Kulinski Jr. est accusé d'avoir abusé sexuellement de 19 jeunes filles de la chorale, parmi lesquelles 8 mineurs. À l'issue d'un procès très suivi par les médias, l'artiste qui n'a jamais admis sa culpabilité est condamné à 5 ans et demi de prison et à une interdiction de travailler avec des mineurs. La chorale continue cependant d'exister et de chanter sous la direction de la mère de l'artiste Blanka Kulinska. Ce n'est que mardi, quelques jours seulement après le retour de Bohumil Kulinski, libéré après avoir purgé la moitié de sa peine, que la chorale Bambini di Praga a annoncé la fin de ses activités et donné son dernier concert. Bohumil Kulinski n'était pas présent et sa mère a refusé de parler à la presse. Elle s'est bornée à constater.
Non. J'ai l'âge de partir, c'est tout simplement un fait, c'est le terminus.
Selon Blanka Kulinska, l'ensemble aurait été trop gravement lésé par le scandale. Elle accuse les médias d'être un parti responsable de la dissolution de la chorale, car, nous citons, « les médias n'ont pas du tout compris la sensation d'injustice et sont restés insensibles à la situation de l'ensemble ». Toujours est-il que la scène musicale tchèque assiste impuissante à la disparition de l'une des meilleures, sinon de la meilleure chorale d'enfants du pays. D'après le directeur administratif de l'Orchestre symphonique de la ville de Prague, Ilya Schmidt, Bambini di Praga était absolument la meilleure chorale tchèque d'enfants au niveau du timbre et de l'intonation. Les médias rappellent à cette occasion que Bohumil Kulinski aurait vendu les droits de l'histoire de sa vie à des cinéastes américains. En 2009, il a confié à l'hebdomadaire Tiden d'avoir déjà signé un contrat. « Je n'ai pas encore vu le scénario, mais il serait en train de l'écrire », a-t-il déclaré.
Après ces faits et événements, direction Lipnice nad Sázavou, une commune de 650 habitants nichée au cœur du plateau Tchéco-Morave à 110 km au sud-est de Prague. Lipnice est réputée pour son château fort et pour être le lieu où le romancier Jaroslav Hašek a écrit son œuvre satirique mondialement connue « Les aventures du brave soldat Švejk dans la Grande Guerre ». Une surprise attend les visiteurs qui, comme Jarka Gisubelova, se rendent à Lipnice.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Les visiteurs trouvent à Lipnice le restaurant à la couronne tchèque, celui-là même où Jaroslav Hašek a rédigé une partie de son roman et qui est aujourd'hui propriété de la famille Hašek. C'est l'arrière-petit-fils de l'humoriste Martin Hašek qui nous y accueille.
J'ai décidé de m'installer à Lipnice en raison de mes origines, parce que je suis l'arrière-petit-fils de Jaroslav Hašek. Quand j'étais petit, je venais avec mes parents à Lipnice pour visiter son tombeau et pour assister au festival d'humour qui lui est dédié. En 2001, l'occasion s'est présentée d'acheter le restaurant à la couronne tchèque et je n'ai pas hésité une seconde. Pour vous expliquer ce qui nous attache à ce restaurant, mon arrière-grand-père a quitté Prague sous l'impulsion du peintre Panouchka, qui connaissait bien la région et qui a proposé à son ami Hašek de l'accompagner. Hébergé à la couronne tchèque, Hašek était heureux de pouvoir séjourner dans un restaurant. En partant de Prague, il ne pensait pas que ce serait pour toujours. En effet, il s'est installé définitivement à Lipnice, mais ce séjour est devenu fatal pour lui, car son amour de l'alcool a fini par l'emporter. Il n'empêche que c'est dans ce même restaurant, à la couronne tchèque, qu'il a rédigé les deuxième et troisième tomes du roman « Le brave soldat Švejk », le premier ayant été écrit à Prague. Hélas, le roman est resté inachevé.
Jaroslav Hašek avait l'intention d'écrire 6 volumes de son roman, mais il n'en a terminé que 4 car il meurt le 3 janvier 1923 à Lipnice en plein travail sur le 4e volume de son épopée rocambolesque. Né à Prague le 30 avril 1883, sa vie a été faite d'excès et d'extravagance. Diplômé de l'Académie commerciale à Prague, Hašek a trouvé un emploi à la Banque Slavia, mais pas pour longtemps car il semblait déjà très porté sur la boisson. La vie mouvementée de l'auteur du brave soldat Schweik est retracée dans une petite maison de Lipnice située en face du restaurant et aménagée en musée. Jaroslav Hašek l'a acheté avec l'argent reçu pour les premières éditions du roman, raconte Martin Hašek, selon lequel posséder une maison est un rêve de son arrière-grand-père malgré la vie errante qu'il menait.
Il n'a malheureusement pas passé plus de 4 mois dans cette maison, puisqu'il est mort relativement jeune, à l'âge de 39 ans, le 3 janvier 1923. C'est dans cette maison, hébergeant aujourd'hui son musée, que Jaroslav Hašek a entamé l'écriture du dernier tome des aventures du brave soldat Schweik. Vers la fin de sa vie, il dictait son roman à Clément Stiepanek, copiste local, pour que le travail avance plus rapidement. Tout en continuant à boire, il réussissait à respecter un certain rythme. Chaque jour, il travaillait pendant au moins 6 heures sur son roman. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait que très peu de mots réécrits, très peu de corrections.
Le 4e volume inachevé des aventures du brave soldat Schweik a été terminé par l'ami de l'auteur Karel Vaněk. Avec son héros, le soldat Schweik, Jaroslav Hašek, a créé un personnage représentatif du petit peuple tchèque mobilisé par l'armée autrichienne, exécutant les ordres avec une telle précision que leur absurdité en devient évidente, ridicule et déplorable à la fois. Le roman visant la médiocrité suffocante de la bureaucratie militaire est considéré comme l'une des plus savoureuses satires du militarisme. Les premières éditions du roman sont à voir à la maison de Hašek à Lipnice. Sur des photographies, on reconnaît l'épouse de l'écrivain Jarmila Majerova et leur fils unique Richard. En 1915, Jaroslav Hašek est enrôlé dans l'armée autrichienne.
Mon arrière-grand-père a servi dans la 11e compagnie des fantassins. Après avoir été capturé en tant que soldat de l'armée autrichienne, il a eu à choisir entre les légions et l'armée rouge et il s'est rendu aux Russes. Engagé volontairement au service des bolcheviks, il a été fait commissaire politique dans la 5e armée russe et commandant de la ville de Bougoulma. Mais avant cela, la peine de mort avait été prononcée contre lui. Difficile de comprendre ses péripéties, mais il paraît que tout était possible à l'époque en Russie. Hašek était un homme génial. Il parlait le russe, le mongol, le latin et beaucoup d'autres langues encore. Il n'hésitera pas plus tard à ridiculiser ses supérieurs dans son roman. La guerre terminée, Hašek est de retour à Prague en 1920, mais l'ambiance dans la capitale de la nouvelle Tchécoslovaquie ne lui est pas favorable. Beaucoup le condamnent pour avoir servi dans l'armée soviétique. De Russie, Jaroslav Hašek ramène une nouvelle femme, Alexandra Lvova, surnommée Shura, bien que n'ayant jamais divorcé de Jarmila. Il a eu la chance de ne pas être poursuivi pour délit de bigamie, car les autorités tchécoslovaques ne reconnaissaient pas les lois russes. Même si Jarmila était la femme légale de Hašek, c'est finalement Shura à qui Hašek a légué dans son testament ses biens ainsi que les droits d'auteur.
Le musée de Jaroslav Hašek à Lipnice est une petite maison sur le chemin reliant le restaurant à la couronne tchèque et le château fort de Lipnice. Les documents exposés nous informent que très vite, Jaroslav Hašek s'est affirmé en tant qu'anarchiste et qu'il a publié de très nombreux textes dans la presse politique. Dans les années 1906-1907, il devient rédacteur en chef du périodique anarchiste Komuna. Il est journaliste, entre autres, au journal satirique Le Monde des Animaux et à České Slovo, le mot tchèque. En 1911, il fonde le Parti du Long Progrès dans les limites de la loi. Le musée nous familiarise avec la personnalité de romancier surnommé Roi de la Bohème Pragoise. Sur des photos, nous le voyons parcourir à pied la Slovaquie, la Galicie, la Hongrie. Sur d'autres, il est l'invité quotidien des cafés et des auberges pragoises. Notre guide au musée Hachek Martin nous conduit dans la pièce où le romancier est mort le 3 janvier 1923. Parmi les objets qui attirent notre attention, une chope à bière énorme et des bottes authentiques que Hachek portait lorsqu'il était à la guerre en Russie. Une table, un lit, une armoire et un samovar ramenés de Russie sont quelques-uns des objets authentiques à voir dans la chambre de Jaroslav Hašek à Lipnice.
Quand il est arrivé à Lipnice, il n'a pas donné de nouvelles à son entourage à Prague pendant plus de 15 jours, et c'est ainsi qu'il a été porté disparu. On le croyait mort, compte tenu de ses tentatives de suicide précédentes. Un jour, on l'empêcha même de justesse de se jeter du pont tchèque à Prague.
Suite à cet incident, il a passé une courte période dans un établissement psychiatrique, ce qui constitua plus tard pour lui une source d'inspiration. Installé à Lipnice à partir de 1920, Hašek a séjourné pendant un an et demi au restaurant à la couronne tchèque. À la question de savoir quel était le plat préféré de son arrière-grand-père, Martin Hašek répond.
Il aimait surtout un plat qu'il appelait kočičí tanec, la danse du chat. C'était des pommes de terre cuites, mélangées avec du saucisson, des oignons et des œufs. Il n'est pas sûr que les touristes apprécieraient eux aussi cette spécialité, alors nous leur servons le goulash de Hašek.
Autre spécialité, le grog de Jaroslav Hašek, une boisson très forte composée de 3 litres de vin chaud mélangé à 1 litre de cognac et complété avec du sucre, de la cannelle, des clous de girofle, un zeste de citron. C'est donc avec de la bière, du goulash et du grog que les visiteurs de Lipnice qui s'arrêtent au restaurant à la couronne tchèque rendent hommage à l'écrivain après avoir visité son tombeau, cimetière local et sa statue érigée au pied du château. Jaroslav Hašek a d'ailleurs servi de guide dans ce château auquel il a aussi dédié un livre, comme le précise le châtelain Marek Hanslik.
Le conducteur des étrangers, Průvodčí cizinců, est le titre de l'un des rares contes jamais consacrés par un romancier tchèque au guide pour touristes étrangers dans les châteaux. Déjà, le titre est à lui seul très amusant et typique de l'humour de Hašek. Pendant son séjour à Lipnice, le romancier a plusieurs fois accompagné les touristes au château et il se plaisait à leur montrer plus particulièrement la cave à bière et les toilettes médiévales en tant que partie, certes importante, du circuit de visite.
Quelques mots encore à propos de la commune de Lipnice nad Sázavou. La première mention écrite remonte à 1226. En 1370, Lipnice obtient une série de droits, dont celui de brasser de la bière, et devient un des premiers sites fortifiés du pays. L'histoire de la commune est indissociable de celle du château fort. Au fil des siècles, plusieurs propriétaires se sont succédés à ce château. Au XIVe siècle, il devient la propriété du roi Jean de Luxembourg, puis de son fils Charles IV. La puissante famille morave des seigneurs de Kunstadt y a fondé une école et un chapitre. Suite aux guerres hussites, le château est transformé en résidence de style gothique tardif. En 1646, Lipnice assiégée, raconte Marek.
C'est la période de la guerre de 30 ans, qui est une guerre de mercenaires. Comme elle dure longtemps et que l'argent fait défaut dans les caisses impériales, les biens confisqués sont vendus. Lipnice est acquis par le baron Matouš Vernier de Rougemont, d'une famille aristocratique de Bourgogne qui a combattu pour les Habsbourg. Après la guerre de 30 ans, Lipnice est incendiée et gravement endommagée. L'âge baroque qui règne en Europe n'est pas favorable aux châteaux forts qui sont abandonnés et tombent en ruine. C'est le cas aussi de Lipnice, car la famille Vernier possédait un palais à Prague, l'actuelle maison slave, Slovanský dům, sur l'avenue Napsikopech. Lipnice est vendue au Landsmannsdorf, sous lesquels un incendie ravage en 1869 la commune, ainsi que le château, dont il ne subsiste que des ruines.
En 1924, le château de Lipnice est racheté par le club des touristes tchécoslovaques qui contribue à la sauvegarde de ses principaux éléments, le donjon, le palais résidentiel, les bastions, les remparts avancés, la cuisinoire et la chapelle de château. Cette chapelle constitue la partie la plus précieuse du complexe. Les premiers prêtres hussites y ont été ordonnés. Lipnice se visite pendant la principale saison touristique et le visiteur peut le découvrir librement ou accompagné d'un guide. Une terrasse au-dessus du palais résidentiel offre une vue magnifique de la région de Vysočina. Le sous-sol gothique avec un puits profond attire les cinéastes tchèques et étrangers. Avant de terminer notre visite de Lipnice, où le plus célèbre roman de Jaroslav Hašek a vu le jour, il reste encore à ajouter que la gloire de l'œuvre a dépassé les frontières de la Tchéquie, avec des traductions dans pas moins de 58 langues, dont le français.
C'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Évidemment, vous le savez, tous ces sujets, vous pouvez le retrouver sur notre site internet, le www.radio.cz, en podcast, en streaming et également sous forme d'articles. Bon vent, ahoy.